Bienvenue à tous. Souriez, vous êtes dans un bon endroit. Vous êtes au bon endroit. J'aimerais introduire la prédication par cette histoire de quelqu'un. Vous savez, ce n'est pas évident de travailler toute la semaine et le dimanche, un bon moment, on doit se reposer, faire des barbecues, on est en été. Eh bien, au dimanche, on doit encore aller à l'église. Ce n'est pas évident, je suis d'accord. Et non seulement ça, parfois on est préoccupé par des choses qui nous prennent tellement la tête que on peut être présent quelque part, mais se faire voler toutes ses affaires sans se rendre compte. Pendant que le culte allait, et à la fin de la présidence, il y avait un monsieur qui était juste assis devant. Avant que le prédicateur ne prenne la parole, on lui dit, « Cher frère tel, est-ce que tu peux prier pour clore ce moment-là ?» Et le monsieur, il dit, « 3 millions !» Tout le monde était étonné. C'est quoi le rapport? Mais le monsieur, en fait, il était préoccupé dans ses affaires, dans le travail qu'il fait, et qu'il est tellement pris par ces 3 millions-là qu'il veut chercher quelque part de gauche à droite pour combler le trou, qu'il est préoccupé par ça. Et donc, pendant toutes les annonces qui sont passées dans l'église, pendant tous les témoignages qui sont passés, les bonnes nouvelles qui sont passées, le monsieur, il était là, mais il était ailleurs. Aujourd'hui, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Vous avez fait le bon choix de venir à l'église parce que le Seigneur s'occupe du reste. C'est l'espoir que nous avons en lui. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est oui, Dieu répond aux prières, certes, mais... Et puis, il y a trois points qui suivent. Et il faut dire que sûrement, nous sommes tous une fois dans nos divers questionnements sur la vie ou notre propre vie, arriver à se dire, oui, je suis d'accord, Dieu répond certes aux prières, mais... Et le mais, ça dépend en fonction de la situation dans laquelle on est. On peut dire mais ceci, mais cela. Et ce qui est intéressant, c'est que l'extension de cette phrase par l'introduction de mais est très parlant. D'une part, c'est un indicateur d'une conviction nécessitant plus d'éléments, genre on veut savoir plus. De l'autre part, cela peut être ou ça peut exprimer une attitude de résignation. Mais bof, je sais, Dieu répond certes aux prières, mais et on se dit dans notre situation, peut-être pourquoi il n'a pas agi dans la mienne. Et donc, on va voir quatre points qui vont nous permettre de suivre la prédication. Le premier point, ce sera Dieu répond certes aux prières, mais pourquoi ai-je l'impression qu'il ne m'entend pas? Le deuxième point, Dieu répond certes aux prières, oui. Non, je pense que je... Oui, mais pourquoi cela tarde-t-il à venir? Et le troisième, Dieu répond certes aux prières, mais est-ce possible même dans ma situation? Et enfin, Dieu répond certes aux prières, oui, mais comment en être sûr? Donc que le Seigneur puisse nous bénir pendant qu'on parcourt ce petit moment de réflexion. Donc oui, Dieu répond certes aux prières, mais pourquoi ai-je l'impression qu'il ne m'entend pas? Bien souvent, sans forcément le faire exprès, il faut le dire, nous fixons un ultimatum à Dieu pour intervenir dans nos situations. Seigneur, je te donne 3 semaines, parce que c'est tellement pressant, je te donne 3 semaines. Et si vraiment tu existes, si vraiment tu es vivant, si tu es vraiment celui-là, le puissant dont j'entends parler, je te donne 1 semaine pour agir. On lui donne un ultimatum. À défaut de respecter cet ultimatum, certains vont même jusqu'à ouvrir la porte au doute, à la rébellion. Et nous savons bien que répondre à une demande peut prendre beaucoup de choses, peut comporter beaucoup d'étapes, peut nécessiter beaucoup d'organisation. Vous savez bien, c'est pour cela parfois, quand on envoie un courrier, certains font un recommandé avec accusé de réception, pour en être sûr que celui à qui nous nous adressons a bien reçu notre courrier, n'est-ce pas? Mais il y a besoin que le facteur amène quand même ce courrier jusqu'au destinataire. Et voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui, dans le cas de Daniel, on va voir Daniel dans deux cas différents. Dans le premier cas, on va voir le contexte historique. Daniel chapitre 9, versets 1 à 2. La première année de Darius, fils d'Assérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il était question que c'était trop à Jérusalem. Le Seigneur avait prévu de tout balayer pour remettre en ordre. Et Daniel, quand il a vu ça, cela lui a pris à cœur, en lisant dans les annales du roi, cela lui a pris à cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? On va lire au verset 3 du même chapitre. Je tournai ma face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Oui, certes, en lisant ça, on n'a pas vu Daniel exprimer certaines émotions, genre « j'ai peur ». Moi, Daniel, je tremblais de peur. J'avais perdu la tête, mes pensées s'envolaient. On n'a pas vu ça dans ce texte. Mais Daniel était un homme comme nous, qui savait ressentir aussi la peur, qui savait ressentir l'inquiétude. Et c'est pourquoi il va se tourner vers Dieu par la prière. Et le résultat de l'action de ce premier cas, nous allons voir à partir du verset 21-22. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment des offrandes du soir. Donc il y avait une situation qui s'est passée. La sentence était que Dieu, il y avait la destruction de Jérusalem qui s'approchait. Et l'action de Daniel, c'était de se tourner vers Dieu pour intercéder en faveur de cela. Et lui-même, il nous confirme que pendant qu'il parlait encore dans sa prière, qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel arrive d'un vol rapide pour lui donner une explication. Donc ça, c'est la première situation, donc cas où on demande à Dieu de faire quelque chose et pas longtemps, on dit au frère, j'avais prié il n'y a pas longtemps pour quelque chose et le Seigneur a agi. Merci. Très rapidement. Mais il y a un autre cas. Dans Daniel chapitre 10, un autre contexte, c'est le règne de Cyrus, roi de Perse. On peut situer ça environ 536 avant Jésus-Christ. La situation de l'époque, les exilés étaient revenus de Babylone. La reconstruction du temple avait commencé. Fini la captivité, on peut le dire, Jérusalem était occupée de nouveau et la paix semble s'installer. À cette époque-là, une sentence encore tombe. Une calamité arrive. La Bible dit que Daniel fut attentif à cette parole. Et qu'est-ce qu'il fait comme action? Versets 2 à 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, il a pris vraiment le sujet à cœur. Il dit, je veux me mettre dans une situation de supplication, d'humiliation, pour que Dieu puisse accorder de la grâce à son peuple. Et le résultat, c'est dans chapitre 10, même chapitre, 12 jusqu'à 14. Il me dit, c'est l'ange, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ah, là c'est encore plus long. Premier moment, une réponse, on peut dire illico, instantanée, comme aujourd'hui avec les textos, on a besoin de quelqu'un. Écoute, tu peux passer à la maison dans quelques secondes? Oui, j'arrive. Ça va vite, n'est-ce pas? Et ça nous facilite beaucoup. Et là, ça prend encore beaucoup de temps. Donc, Daniel a proposé de se mettre dans une situation de supplication de 21 jours. Et l'ange là lui dit, depuis que tu as commencé, dès le premier jour, je t'ai entendu. Sauf que, pendant la route pour livrer le message, il y a eu quelques obstacles. Des obstacles aussi qui peuvent arriver dans nos vies. Quand nous demandons à Dieu d'intervenir dans nos situations, ça peut être instantané d'une part, mais dans d'autres cas, ça peut être plus long. On va résumer un peu. Donc, dans les deux cas de Daniel, nous avons vu la première prière était exaucée illico. Cependant, pour la deuxième, quelque chose s'est passé, il y a eu un obstacle, et donc on retard de 20 jours. Daniel intercédait pour son peuple. C'est le cas aujourd'hui où, quand nous prions pour un de nos proches, un ami, un membre de famille ou quelqu'un qu'on a connu, qu'on a rencontré et qu'on a envie que cette personne connaisse le Seigneur, c'est bon de savoir que le Seigneur peut intervenir instantanément, comme ça peut être plus long. Et si jamais je vous raconte combien de temps mon ami à travers lequel le Seigneur a utilisé pour m'amener à lui, c'est des années. Ce jeune homme, comme moi, qui tout son temps était en train de prier pour moi, pendant que de l'autre côté, moi, je l'embêtais et je lui dis, comment tu peux être jeune et ne pas aller danser, de ne pas aller courir derrière les filles? On n'est pas vieux. Allons, faisons plaisir. Et je me moquais de lui. Mais lui, il était là. Ce jeune homme avait la patience parce que certaines paroles peuvent être, voilà, c'est quelqu'un de mon âge, donc je pouvais l'embêter, je pouvais lui dire des choses qui pouvaient le provoquer, mais il n'a pas baissé les bras. Il a persévéré. Et jusqu'au jour où, avec lui, le Seigneur m'a convaincu que stop, c'est le moment de te calmer. Et ma vie a pris une autre tournure. C'est bon qu'on s'encourage, qu'on sache que le Seigneur est là. Que ça soit illico ou un peu plus long, il est toujours là avec nous. Et on va passer au deuxième point. Alors, Dieu répond certes aux prières, mais pourquoi cela tarde-t-il à venir? Quelqu'un a dit un jour que les médecins ont toujours du mal avec les patients impatients. Oui, un patient, bon, si on fait le jeu de mots, un patient, normalement, il devait être patient. Mais ce n'est pas évident, parce que s'il est patient, c'est parce qu'il y a une situation qui l'a mis. Il est dans une situation qui n'est pas comme la situation normale, et que c'est pas, ça peut être inconfortable, on est bien d'accord. La plupart d'entre nous, on a été patients, et qu'on a hâte de reprendre le travail. On a hâte de reprendre les potes pour les jeunes. On a hâte de retrouver le terrain pour jouer le foot. On a hâte de revenir à la maison pour retrouver sa femme. Où il y a beaucoup de situations. On a hâte parce qu'on n'aime pas rester cloîtré sans rien faire. Je sais qu'on est bien d'accord sur ce coup-là. Autant le patient doit savoir que le temps de son médecin, que ce soit pour une prescription de médicaments ou injections ou quoi que ce soit, renouvellement de pansements ou toute chose, que le temps de son médecin est meilleur, autant le chrétien doit se faire l'idée que le temps de Dieu est toujours le meilleur moment. Évidemment, on est d'accord, hein, c'est facile à dire. Quand il faut le dire, il y a un décalage entre le fait de le dire et le fait de le vivre. On est des humains, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, ni vous ni moi, nous pouvons changer les règles de jeu. C'est comme ça. C'est comme vous allez devant votre banquier, il vous dit, mais monsieur, je suis d'accord, hein, je comprends votre situation. Vous avez envie d'acheter une maison pour votre famille qui s'agrandit. Je compatis, hein, monsieur. Ne me méprenez pas, hein, je compatis. Mais de l'autre côté, je ne peux pas freiner les règles. Hein. Vous savez, notre politique de banque ne permet pas d'aller dans certaines mesures. Ouais, c'est pas très prudent de ma part si je le fais. Je peux me faire virer, vous comprenez, monsieur? S'il veut être un peu pathétique. Et là, on va voir le cas d'une famille, Sarah et Abraham. On connaît bien l'histoire de Sarah et Abraham, mais on va faire un petit rappel. Genèse chapitre 12. Dieu demanda à Abraham de quitter les siens vers un lieu inconnu. Jusque-là. Par la foi, Abraham accepta ce défi. Il avait 75 ans. Très jeune, n'est-ce pas? Genèse chapitre 15, verset 4. Dieu confirma la promesse de descendance faite à Abraham au verset 2 de Genèse chapitre 12. Jusqu'à là, parfait. À Genèse chapitre 16, 10 ans déjà écoulés, la promesse de descendance faite à Abraham était dans son cœur. Mais il se disait, mais ça n'arrive pas. Ça fait déjà 10 ans. L'attente est longue. Et puisqu'il y avait en ce moment-là Agar, que le couple avait amené d'Égypte, elle était vraiment une alternative parfaitement inadéquate pour la situation. Je fais le jeu de mots parce que pour eux, c'était une alternative parfaite. Mais pour Dieu, non. Ça pouvait combler peut-être le manque à cet instant précis, mais le long terme, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu au départ. Et donc, Sarah, qui a tellement pris le sujet à cœur, parce que si on lit au début, elle a dit, « Le Seigneur m'a rendu stérile, moi, donc pour qu'on puisse avoir des enfants, je te propose de prendre ma servante. » Bon, elle a décidé de prendre un peu les choses en main parce qu'elle s'est dit, mais mon mari ne bouge pas. Je prends un peu les choses en main. Et on a vu que Ismaël est né. Est-ce que c'est Ismaël, le fils de la promesse? Non. Il fallait attendre. Bon, dans la Bible, nous, on doit attendre jusqu'au verset 21. Mais eux, ce n'était pas ça. C'était encore des années qu'il fallait attendre. 25 ans. Au moment de la promesse, jusqu'au moment de l'accomplissement de la promesse, 25 ans d'attente. Toute une vie, n'est-ce pas? C'est pour cela, quand on lit ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 11, on rappelle comment les gens nourris par la foi ont pu rester à l'écoute de Dieu jusqu'à l'accomplissement des choses. Ça nous encourage, n'est-ce pas? Le temps d'attente, ça peut être un jour, une semaine, un mois, un an, peu importe. Mais Dieu reste le même. On va résumer un peu. Il est bien clair que bien de manière, nous avons déjà prouvé à notre entourage ou à nous-mêmes que la patience n'est pas notre fort. Apprenons donc, comme Abraham, à être attentifs quand nous nous éloignons de ce que Dieu avait prévu au départ et que celui-ci nous rappelle à l'ordre. Il faut avoir l'humilité de savoir que si on a à un moment donné, dévier, quand le Seigneur nous interpelle, d'accepter avec humilité et de revenir. Parce que ce que Dieu a dit à Abraham dans le chapitre 17, le fait de lui dire, sois intègre, c'est le dernier mot, intègre là, Dieu appelle Abraham à être entier, de ne pas avoir le cœur divisé. Il voulait lui dire, certes, tu avais le cœur partagé au point de faire quelque chose qui n'était pas à l'origine de mon plan, mais cette fois-ci, sois intègre. Garde le cœur entier et ne pas être divisé. Pourquoi? Parce que ce que j'ai prévu dès le départ, je vais l'accomplir. Alors, Dieu répond aux prières, certes, mais est-ce possible même dans ma situation? Est-ce que c'est possible dans ma situation? Oui, j'ai vu que Dieu a fait ceci pour telle famille. Dieu a fait ceci pour telle personne. Mais quand il s'agit de moi, est-ce possible que cela puisse s'accomplir? Si tout dans ma situation personnelle dans laquelle je me trouve. Certaines épreuves de la vie peuvent être tellement intenses que bien souvent on peut être amené à se demander si Dieu est à nos côtés. C'est fort. On est humain, on ressent. Et on se dit, mais Dieu, est-ce que tu es là? Et si tu es là, pourquoi gardes-tu le silence? Pourquoi gardes-tu le silence? J'ai envie de savoir que tu es avec moi. Parce que c'est dur d'affronter cela tout seul. Les forces me manquent. Et du coup, si le silence perdure, on peut être amené à conclure que s'il est silencieux, c'est parce que ce n'est pas possible. Et on rentre dans la résignation. On se dit, bon, c'est fini. il n'y a plus rien à faire. Et cette situation, on va en parler de cette situation du roi Joram dans 2 Rois chapitre 6, une histoire que beaucoup de gens connaissent. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et ce qui s'est passé, à chaque fois, il envisageait de faire des embuscades au roi d'Israël. Mais le roi d'Israël, apparemment, il était bien équipé. Peut-être aujourd'hui, on parle des renseignements. Mais Israël avait vraiment un comité de renseignement. C'était l'homme de Dieu, Élisée. À chaque fois que le roi de Syrie envisageait de sortir, faire embuscade dans une zone, Dieu révélait cela au roi, à l'homme de Dieu, et qui le transmettait au roi. Et donc les Syriens, le roi de Syrie était étonné. Mais comment se fait-il? Est-ce qu'on aurait une taupe parmi vous? Levez la main, s'il y a une taupe. Je rigole. Et il était étonné. Il était étonné. Et on lui a dit, en fait, non roi, ne vous méprenez pas, il n'y a pas de taupe. En fait, en Israël, il y a quelqu'un, un serviteur de Dieu, à qui Dieu révèle tout, même sous des choses que l'on pense dans nos couches. Vous voyez, ça peut aller très loin. Vous êtes dans votre chambre, vous dites que, vous voyez cette personne-là, demain je passerai, je ne lui serrerai pas la main. Et en passant, il vous dit, hey, bonjour monsieur. Vous dites, punaise, je ne voulais pas lui serrer la main. Tout ce que vous pensez dans la couche, Dieu révélait son message à l'homme de Dieu et qu'il le transmettait au roi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a décidé de venir arrêter Élisée. Et tôt le matin, la nuit, il est venu avec des chars, avec l'armée, avec tous ses cavaliers. Ils ont encerclé la ville. Et tôt le matin, le serviteur de l'homme de Dieu s'est levé et il a vu cela. Il a dit à mon père, qu'allons-nous faire avec tout cela? Au verset 2 Rois, chapitre 6, au verset 16, Élisée va lui dire, ceux qui sont avec nous, n'aient pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ces gens-là. Ne crains pas. Et il a prié que Dieu ouvre les yeux du serviteur pour voir ce qu'il vient de lui dire, comme une confirmation que même quand on ne voit pas, Dieu est là. Et quand il a vu ça, il a compris. Vous voyez, c'est réconfortant de sentir ce moment-là. Et donc, pour faire court, Élisée va balader l'armée, une façon de parler, jusqu'en Samarie. Il va les frapper d'aveuglement, il va les amener jusqu'en pleine ville de Samarie et il va prier que leurs yeux s'ouvrent et ils vont se trouver que, en fait, c'est le monsieur qu'ils étaient venus chercher qui est avec eux. Et le roi Joram a voulu tuer l'armée. Il a demandé au roi, au serviteur, est-ce que je dois tuer, je dois frapper? Il lui dit non, ne frappe pas. Ils les ont fait un festin, manger. C'est énorme, c'est sympa, non? Ceux qui étaient venus t'arrêter, tu leur donnes à manger et puis il dit, retournez en paix chez vous. Sauf qu'eux, ils ont décidé de faire une revanche. Et donc, ils sont revenus, assiégés Samarie et il y a eu la famine. C'est le contexte là. Il y a eu la famine. Même les crottes de pigeons coûtaient très cher. La tête d'un âne doublait le prix. Et il y a même des femmes qui se sont proposées de manger leurs propres enfants. C'est une situation très, très dure. Il paraît en France, il y avait 1789 une famine. C'est ça, 1789, il y avait une grande famine. Ceux qui étaient là, peut-être qu'ils se souviennent ou non. You know? Mais la famine, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est pas quelque chose, je vais utiliser un euphémisme, la famine, c'est pas quelque chose de sympa. Ça peut être terrible. Et quand le roi, un jour, en passant sur le mur, sur la muraille, il a entendu une femme qui l'appelle, « Oh roi, sauve-moi !» Il dit, « Si l'Éternel ne te sauve, qui puisse, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne peux pas te sauver. » Et il a raconté l'histoire là avec... La femme qui lui a proposé qu'on mange ton enfant aujourd'hui, et quand on aura fini, on pourra manger le mien demain. Le roi était fâché. Il se dit, ces gens-là, on a voulu les tuer, mais Élisée a dit non. On leur a fait non seulement rentrer chez eux, mais on leur a fait un festin. Et maintenant qu'ils reviennent nous assiéger, il était fâché, il voulait tuer Élisée. Une situation très compliquée. Le roi, il perd les boules, il n'a plus de repères. Ça le dépasse. Si en ce moment-là, c'était aujourd'hui, vous ne souhaiterez pas être le chef d'État d'Israël de l'époque. Parce que les gens vont venir vous lapider. Des gens qui vont jusqu'à manger leurs propres enfants à cause de la faim. Imaginez la situation. En situation de crise, des raisons de douter. Et au moment-là, pendant qu'il envisageait franchement de s'apprendre à Élisée, le messager va arriver avec un message et accompagné d'Élisée. Donc B, en situation de crise, on a certes des raisons de douter, mais on n'a pas raison de douter. Des raisons sont innombrables pour douter, mais on n'a pas raison de douter. Car Dieu est maître de toute situation. Pour celle-ci, il a décidé d'intervenir puissamment pour montrer sa fidélité à Israël et aux nations voisines. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu, dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1, l'homme de Dieu, Élisée, a dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, demain à cette heure, si la mesure de fleurs de farine sera à un cycle et les deux mesures d'orge à un cycle à la porte de Samarie. » Ça, c'est l'homme de Dieu. Et l'homme du roi a dit, « Voici, quand l'Éternel ferait même des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il ? » Donc, ça, c'est la confrontation de deux puissances. Le conseiller du roi, qui connaît la situation, parce qu'il est le conseiller du roi, il connaît bien. Et là, le porte-parole de Dieu, qui connaît aussi, de l'autre côté, la force et la capacité que Dieu peut avoir de changer les situations. Donc, confrontation. Et ça peut arriver dans nos vies. De lire et de voir que Dieu est capable de transformer une situation. Mais de l'autre côté, notre sens rationnel nous dit, est-ce que cela c'est possible? Et donc, à longueur de journée, on se bat. On se bat sur ce qui est certain que nous connaissons, que le Seigneur est capable de faire, et ce qui est rationnel. Est-ce que c'est possible? C'est tellement fort. Est-ce que c'est possible? On résume. Bien souvent, on est tellement obsédé par l'évidence des problèmes que nous passons à côté de l'évidence de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas que le problème est réel, qu'il n'existe pas une solution réelle pour le contrecarrer. Le problème peut être réel, présent, grand, énorme, mais cela n'empêche, le Seigneur est là et il est capable de nous venir en aide. Et enfin, comment en être sûr ? En cherchant à connaître mieux Dieu, en lisant la Bible. C'est énorme le verset là que je vais lire. « Si donc, méchants que vous êtes, vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Ça, c'est ton reproche pour nous permettre de faire plus confiance au Seigneur, de nous dire de ne pas douter de sa capacité de nous entendre, de nous aimer au point de prendre soin de ce que nous lui demandons de faire à notre faveur. Vous savez, quand je suis arrivé en France comme étudiant, c'est drôle ce que je vais vous raconter, et je me disais, donc on était ensemble dans la même église, et quand on discute sur la volonté de Dieu dans le mariage, moi ma volonté était faite. Je savais ce qui était bon pour moi. Quand j'aurai fini mes études, je vais retourner au Sénégal, parce que là je trouverai une femme qui me convient. Facile, n'est-ce pas? On a la même culture, on a la même couleur, on mange la même chose, des trucs comme ça, je rigole un peu. Et c'était ça ma volonté. Donc tous les gens qui priaient pour que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, pour la recherche d'une épouse, dans ma tête, dans un coin là, moi je disais oui, mais la volonté c'est là-bas, c'est pas ici. C'est pas en France. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'on apprenne à comprendre que si nous, en tant qu'humains, on sait ce qui est bon pour nous ou ce qui est bon pour nos enfants, Dieu ne saurait-il pas ce qui est bon pour nous? Lui qui est celui qui nous a fait.
Des fois, des temps en mode avion, je ne peux pas vous aider pour le moment.
Moi non plus. Vous voyez? Et donc, il a fallu comprendre comment Dieu fonctionne à travers nos lectures, à travers notre contact avec lui pour comprendre que lui, il sait. C'est nous qui nous agitons pour rien. Lui, il sait. Et aujourd'hui, est-ce que je me suis marié avec une Sénégalaise? Non. Il fallait accepter de reconnaître ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Baisser notre fierté, notre orgueil et laisser Dieu nous travailler comme le chantier qui est en cours, que vous voyez là. Jusqu'à ce que lui, il nous mène vers la chose qui nous convient le plus. Et aussi, il faut écouter les conseils des frères, c'est très important. Les frères en Christ et sœurs, c'est une famille. Et ce n'est pas par hasard que Dieu nous a amenés ensemble. Les expériences des uns des autres peuvent nous servir. En conclusion, la prière ou l'attente de l'action de Dieu dans notre situation est une épreuve de foi. En tant qu'être humain, nous sommes souvent portés par ce qui est visible, physique et touchable pour nous rassurer. Mais on peut lire ici que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bon, ce n'est pas la bonne conclusion. La prière ou l'attente de l'action de Dieu dans notre situation est une épreuve de foi. En tant qu'être humain, nous sommes souvent portés vers ce qui est visible, physique et touchable pour nous rassurer. La foi est un chemin difficile, nous lisons dans l'Évangile. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Mais la foi est aussi une merveilleuse façon de vivre. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, même quand on ne voit pas, le Seigneur est toujours en œuvre. Soyez bénis.